Bonsoir le club, Maxime Binet.
Bonsoir le club, soyez les bienvenus dans votre émission de référence sur l'actualité politique et ses coulisses. Au sommaire du club, quelle doit être la réponse des Européens face à Donald Trump, le président américain de retour à la Maison-Blanche? Très rapidement, le milliardaire a annoncé ses premières mesures économiques, migratoires et concernant les genres. L'unité européenne ou la vassalisation, c'est l'édito de la Libre-Belgique. Nous y reviendrons dans un instant. À nouveau, le président du PS bruxellois referme la porte à un gouvernement régional avec la NVA. Ahmed Laouège refuse de s'inscrire dans une majorité la plus à droite possible. Il l'a répété lors d'une cérémonie de vœux en insistant que c'est au MR de trouver la solution sur Bruxelles. Nous en débattrons. Enfin, c'est une mesure qui est envisagée par l'Arizona et qui interpelle les interlocuteurs sociaux. Le gel de l'indexation des allocations sociales pour les petites retraites compensées par un autre revenu et pour les chômeurs de longue durée. L'ambiance au sein de l'Arizona n'est pas bonne. Nous vous donnerons les coulisses des négos en fin d'émission. Et merci de nous rejoindre sur LN24 et sur LN Radio. Plus jamais, vous ne verrez la politique comme avant, c'est notre promesse. Et pour commenter cette actualité, nous sommes avec nos trois chroniqueurs ce soir. Bonsoir Fabrice Goffilet.
Bonsoir.
Vous êtes intervieweur, présentateur pour la matinale de BX1, la chaîne régionale sur Bruxelles. Votre édito, notamment ce matin et hier, c'était bien sûr sur l'investiture de Donald Trump. Bonsoir Romain Mascoyer.
Bonsoir Maxime. Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisé dans l'actu politique à Bruxelles pour la DH. Vous venez d'écrire un article très intéressant sur l'avenir professionnel régional de l'ancien bourgmestre d'Ixelles, à savoir l'écolo Christos Doulkeridis, à retrouver bien sûr dans l'ADH. Et puis bonsoir Francis Van Doelstein.
Bonsoir Martin.
Vous êtes éditorialiste bien connu à la Libre Belgique. Tout va changer rapidement, écrit la Libre en une, qui est revenue évidemment sur l'investiture de Donald Trump. Voilà pour les présentations, place à la politique. Et l'édito à la une, l'unité européenne ou la vassalisation, écrit la Libre Belgique ce matin. Selon la Libre, le retour de Donald Trump annonce un chamboulement des relations entre les États-Unis et l'Union européenne. Alors oui, par le passé, il y a eu des frictions sous des présidences démocrates, notamment avec Barack Obama et Joe Biden. Mais ici, nous sommes entrés dans une autre réalité. Les États-Unis peuvent être désormais considérés comme une menace pour la prospérité, la stabilité et la sécurité de l'Europe. L'Europe s'adapte à un monde qui change, mais pas assez vite, pas assez rapidement et pas autant qu'il est nécessaire, conclut la Libre Belgique. Francis Van Doelstein, on va débuter ce débat avec vous. Commençons notamment par quelque part notre destin. Notre destin d'Européen est-il destiné quelque part à être des éternels seconds ?
Alors non, parce qu'il faut rappeler que la plus grande puissance économique, enfin le marché économique commercial le plus important, c'est précisément l'Europe avec 450 millions de consommateurs. Donc nous n'avons pas de par nature d'être toujours les deuxièmes ou les perdants. Mais il est clair que la réponse des Européens se fait toujours attendre dans tous les domaines, quels qu'ils soient, énergétiques, technologiques. Et le problème, c'est que l'Europe, c'est pas une Europe, c'est 27 États qui avancent quasiment à 27 vitesses différentes. Et le problème, c'est que, de nouveau, la réponse face à Donald Trump, je crains qu'elle se fasse longtemps attendre. Pourtant, on peut pas dire qu'il a caché son jeu. Je veux dire, sa campagne électorale, on savait ce qu'il y avait dedans. On sait les mesures de restriction, les impositions dont il va frapper les importations chinoises, mais aussi européennes. Et on voit bien que l'Europe a du mal à réagir. Tout comme elle a eu du mal à réagir face à l'inflation acte de Joe Biden, hein,
qui a bien marché. En tout cas, il y a eu des industries qui se sont installées et qui ont été conservées sur le sol américain. Mais je me pose vraiment la question à Francis Van Doelstein, lorsqu'on voit Ursula von der Leyen réagir en disant il faut une collaboration étroite, puis on voit un premier ministre, alors vous allez dire qu'il est affaibli, François Bayrou pour l'instant, mais qui dit il faut aller au rapport de force avec Donald Trump.
Oui.
Mais on dirait que c'est mal.
Je n'ai aucune sympathie pour Donald Trump, mais vous voyez la différence dans les deux discours. Lui, il ne connaît que le rapport de force, c'est un homme d'affaires. Et au mieux, il considère l'Europe comme un allié hostile. Et donc nous, je pense qu'il est temps qu'on se réveille, hein, vraiment, que l'on se rende compte que, je suis désolé, mais c'est une espèce de guerre commerciale, je veux dire, qui est déclarée par Donald Trump, et pour lui, le seul vainqueur doit être les États-Unis. On ne va pas parler de tout ce qu'il... les menaces qu'il a adressées au Canada, au Groenland, au Panama, mais vis-à-vis de l'Europe, nous sommes aussi désormais ses adversaires.
Fabrice Grosfilet, quelquefois, durant la campagne, Donald Trump n'a pas hésité à comparer l'Union européenne à une petite Chine. C'est-à-dire que on peut dire que le nouveau président, enfin le président qui retourne à la Maison Blanche, n'aime pas vraiment l'Union européenne, préfère négocier directement avec les Européens, en tout cas chacun des 27 pays membres. L'Union européenne, vous y croyez à ce wake-up call européen ou pas ?
Donc c'est le diviser pour régner dans les déclarations de Donald Trump. Moi je me rappellerai toujours aussi de Bruxelles, ce trouhaha pendant sa première... Oui. Présidence, n'oublions pas ça. Je suis d'accord avec Francis et je vais même aller un poil plus loin. Je pense qu'en fait, il va falloir qu'on ait un reset européen. Mmh. On a tous vécu depuis 30 ou 40 ans sur l'idée que nous étions dans une période de mondialisation, où l'économie était ouverte, où ce qui allait nous tirer vers le haut et assurer la croissance mondiale, c'était les échanges économiques avec le moins de barrières possible. Et d'ailleurs, des libéraux comme Ronald Reagan avaient été un peu les précurseurs de cette idée. Cette idée, elle n'existe plus aujourd'hui. Alors nous, on est encore un petit peu chaos debout, mais c'est très clair que Ronald Reagan nous fait changer de monde. On est dans une économie du protectionnisme et de la guerre économique. Donc avec Trump, c'est la guerre économique. Et les Européens n'ont pas encore fait ce reset. On est encore, nous, dans l'idée qu'on est des partenaires commerciaux. On est moins partenaires aujourd'hui qu'on est concurrents. Et donc ça, je pense que l'Europe va devoir vraiment revoir sa copie et changer complètement le logiciel. et j'ai peur que ça prenne un petit peu de temps. Premier point. Deuxième point, on a raison de dire que les 27 ne partent pas d'une seule voix. C'est très intéressant. Ce matin, on entend un Viktor Orban dire qu'il faut maintenant que les conservateurs marchent sur Bruxelles, hein, et qu'après avoir pris la Maison Blanche, le prochain objectif de ce mouvement qu'on va appeler réactionnaire, conservateur.
Certains disent l'international conservateur.
Oui, et conservateur, le mot est peut-être un petit peu faible encore. Et donc ça, c'est la position de certains États membres. Ils sont pas si négligeables que ça. Hein. Et il y en a plusieurs en Europe. Et puis, on a la déclaration, par exemple, d'Alexander De Croo à Davos cet après-midi. C'est savoureux. Hein. Davos, c'est un petit peu l'ancien monde, alors que ceux du Nouveau Monde, ils étaient à Washington. Hein. Mais à Davos, qui dit, on va devoir un petit peu montrer nos muscles et, par exemple, dire que le Groenland, c'est pas négociable. C'est bien, mais il faut que Orban et Alexander De Croo, ils parlent la même langue. C'est pas le cas aujourd'hui. Et je dois quand même noter que Ursula von der Leyen, elle est un petit peu aux abonnés accents. Hein. On n'a pas toujours de réponse sur ce qu'on va faire sur le Digital Service Act. Oui. Une enquête depuis longtemps de la Commission européenne. On aimerait bien que ça aille au-delà de l'enquête. Et on n'entend pas Ursula von der Leyen. Et ça, c'est l'illustration que les 27 ne sont aujourd'hui pas capables de répondre d'une seule voix à la menace américaine.
Mais quand on voit la France et l'Allemagne, Ursula von der Leyen et,
ça ne suffit
je
pas.
Me rappelle, François Bayrou qui ont des discours complètement opposés.
Oui, je vous rappellerai que Ursula von der Leyen, elle doit l'installation de la commission aux voix des membres du parti de Giorgia Meloni. Donc on est dans des logiques de coalition, on n'est pas dans des logiques d'affrontement. C'est pas aussi simple que ça.
Justement, Romain Masculier, Giorgia Meloni, elle était à Washington pour l'investiture de Donald Trump. Il y avait aussi Viktor Orban, il y avait aussi Tom Van Kricken. C'est la volonté, clairement, d'appuyer les conservateurs, l'extrême droite aussi, tout européenne, pour déstabiliser l'outil, la construction européenne.
Oui, je pense, et en fait c'est un grand changement par rapport à la première présidence de Trump, où j'ai envie de dire il ne se mêlait pas trop de l'Europe, il faisait son protectionnisme américain, et là il y a une autre dimension qui arrivait, on pourrait dire une dimension à l'entendre Elon Musk, une dimension civilisationnelle, avec comme ça une internationale, enfin un mot qui est utilisé souvent maintenant, c'est cette grande amicale, on pourrait plutôt dire ça comme ça, de gouvernement d'extrême droite, enfin de mouvement d'extrême droite. Et c'est vrai qu'on parlait de la voix européenne, mais Fabrice Grospigé-Filet le disait, De Croo ne parle pas la même langue, ni politique, ni linguistique que Orban. Il y a des différences entre des pays qui, autrefois, dans la construction européenne, étaient des pays qui étaient frères entre l'Italie et la France. Il y a vraiment il y a des différences d'approche diplomatique et des différences idéologiques entre ces gouvernements. Et donc, on s'est réveillé avec les États-Unis qui ne sont plus juste des compagnons, mais Francis Van Housen l'a dit, des alliés hostiles, avec des logiques totalement différentes. Parce que lui, il a Donald Trump dans une logique de dérégulation, de liberté. L'Europe a toujours une logique de normes et de réglementation.
Ouais, sur les réseaux sociaux, par exemple, hein, sur le digital. Hein,
mais aussi pour l'énergie, pour les normes environnementales.
Excusez-moi, mais Trump, il est dans une logique de dérégulation quand ça l'arrange, en fait. Et uniquement quand ça l'arrange. Il va être le premier à mettre des barrières de protection douanière. Donc, en fait, on est avec quelqu'un qui ne respecte plus les règles du jeu. Donc, il faut que l'Europe se prépare à ne pas devoir respecter à outrance des règles du jeu qui sont les jeux d'hier.
Et ça arrive à un moment où, justement, l'Europe est très divisée. Et on le voit qu'une commission qui est très affaiblie, hein, et un Parlement européen qui est également très fracturé.
Oui, qui est très radicalisé aussi, donc, le Parlement européen. Un quart des députés sont issus soit de l'extrême droite, soit d'une droite très très radicale.
Avec des mouvements qui sont incompatibles, donc un wake-up call en Europe, oui, il le faut, mais c'est peut-être le pire moment pour l'Europe.
Un wake-up call, européen, pas seulement économique, j'imagine, Francis Van Woonstein, puisque quand je vois aussi le discours hier lors de l'investiture de Donald Trump, eh bien, il a parlé de ses premières mesures concernant la migration, concernant aussi des mesures concernant les genres. Oui. Il faut aussi qu'elle montre aussi ses valeurs, l'Union européenne.
Oui, mais là, je veux dire, ce sont des mesures qui concernent la politique intérieure des États-Unis. Donc, ce n'est pas à l'Europe. Enfin, oui, il y aura peut-être un jugement moral de la part des Européens pour dire que renvoyer 11 millions de migrants,
parler de déportation durant la campagne.
Oui, donc c'est totalement immoral. De toute façon, c'est impossible, hein, parce que dans toutes les mesures qu'il a annoncées hier, il y en a qui ne pourra pas mettre en mesure. Il ne va pas annexer le canal de Panama, racheter le Groenland et faire la guerre au Canada. Donc, il faut quand même aussi un peu raison garder. Cela dit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, toutes les mesures qui frapperont l'Europe, à savoir les mesures économiques, donc les taxes à l'importation des produits chinois et européens, on le sait depuis qu'il a lancé sa campagne électorale. Et donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été prévenu.
Vous êtes surpris quand même sur le Groenland. Hein.
Oui. Bon, ok, mais enfin, on verra, parce que c'est vrai que ça reste un territoire européen. Mais est-ce qu'on va... Les Groenlandais, je ne sais pas ce que vous avez vu, leur réaction, de toute façon, ils se sont dit, mon Dieu, nous sommes importants, on a de la valeur, est-ce qu'on va vraiment aller faire la guerre? Enfin, je ne crois pas. Mais donc, c'est le problème européen. Donc, Kissinger, hein, vous vous souvenez de l'ancien secrétaire d'État européen, disait, il y a 50 ans, hein, l'Europe, qui dois-je appeler? Donnez-moi un numéro de téléphone. On en est toujours là. Il n'y a pas d'Union européenne, en tout cas, elle est totalement insuffisante. On dit toujours qu'elle ne progresse qu'en cas de crise. Et c'est vrai que l'Europe de la défense a progressé lors de la crise, enfin l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Et j'espère, mais ce sont des vœux pieux, que maintenant, mais qui va, saisir le taureau par les cornes et va faire de l'Europe une vraie puissance économique, ce qu'elle est en capacité de faire.
Avec un moment particulier, parce qu'on va avoir peut-être un changement de majorité en Allemagne, donc ça aussi, ça complique quand même un petit peu l'équation. Moi, je suis d'accord et je pense qu'on est face à l'heure de vérité. Et moi, je pense qu'il y a un nouveau clivage qui va voir le jour, en tout cas une nouvelle démarcation qu'on doit étudier, c'est ceux qui vont s'accommoder de l'Amérique de Trump, voire qui la souhaite ou qui l'encourage, et y compris au sein de nos opinions publiques et même de l'opinion publique belge. Je pense que l'idée qu'il n'y a que deux genres, ça peut parler à une partie de l'électorat belge, y compris l'électorat francophone, hein, donc faut pas non plus complètement être aveugle là-dessus. Et puis donc d'un côté, ceux qui vont bien vivre avec les thèses de Trump et de Musk, de l'autre, et puis un ventre mou au milieu qui va s'en accommoder, mais sans être ni pour ni contre, et puis ceux qui vont clairement s'y opposer. Et ça va être la nouvelle ligne de démarcation en Europe. Mais moi, je pense que le ver, il est dans le fruit en Europe. Hein. On a parlé d'Orban, mais c'est pas le seul. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'unanimité pour dire qu'on va s'opposer à Trump. Non. Donc, on est condamné, pour reprendre le terme de l'édito de La Libre, à une forme de vassalisation plus ou moins consentie.
Donc, éternel second, les Européens face aux États-Unis et à la
Chine.
C'est
ma crainte.
Voilà, en tout cas, pour ce débat, on va passer à la punchline du jour. Et cette punchline nous émane d'Ahmed Laouège, chef du PS à Bruxelles, a réaffirmé lors d'une cérémonie de vœux son refus de gouverner avec la NVA. Il ne veut pas s'inscrire dans une majorité aussi marquée à droite avec la NVA. C'est sans le PS, selon Ahmed Laouège. Alors Fabrice Grosfilet, j'ai envie de vous poser cette question pour débuter ce débat. Rien n'a changé depuis la fin de l'année dernière ?
Ah, rien n'a changé depuis deux mois. Donc ça fait deux mois qu'on tourne autour de cette idée de ramener le PS à table, alors que le PS a quitté la table des négociations parce qu'il ne veut pas entendre parler d'une majorité à laquelle la NVA serait associée. Il y a eu énormément de déclarations publiques, il y a eu beaucoup plus de déclarations publiques que de négociations en coulisses, hein, faut quand même le noter, pendant ces deux mois, il s'est quand même pas passé grand-chose. Non, je pense que le PS est très clair et qu'il ne reviendra pas sur sa décision. Et tout ce qui se passe au dehors, c'est un petit peu périphérique et ça sert probablement à masquer le fait qu'il ne se passe rien, justement. Donc voilà, je pense qu'il y a un veto du PS. Du PS bruxellois, mais c'est le PS bruxellois qui négocie, on y reviendra peut-être. Et ce PS, ce veto, il est très clair, je pense qu'il est encore une fois réaffirmé. Penser qu'on va pouvoir le contourner, je pense que c'est ne pas très bien saisir le caractère de Ahmed Laouège qui n'est pas si facile à manœuvrer.
Ce qui est intéressant aussi, ce sont les propos tenus par Paul Magnette lors d'une autre cérémonie du PS national. Cette fois, c'était la semaine passée. Il n'a jamais prononcé le mot veto lorsqu'un journaliste l'a interrogé. Et d'une manière assez rude, hein, sur de possibles participations pour voir avec la NVA à Bruxelles. Francis Van Woensten, on a l'impression qu'entre Ahmed Laouège et Paul Magnette, bah, le courant passe vraiment pas entre les deux hommes. Hein.
Pas du tout. Enfin, vous avez raison, le courant ne passe pas du tout, en effet. Donc, Paul Magnette ne peut pas poser un veto à l'égard de la NVA, puisqu'il y a 4 ans, en 2019-2020, il a négocié pendant plusieurs semaines avec la NVA. Et c'est vrai que déjà à l'époque, c'est Ahmed Laouej qui a mis un peu le pied dans la porte pour empêcher que les négociations se poursuivent. Et puis, il y a eu cet épisode, souvenez-vous, des écologistes et des libéraux qui se sont dit qu'ils n'allaient pas être embrigadés dans cette négociation. Là. Mais donc, comme Fabrice l'a très bien dit, c'est le PS bruxellois qui négocie la majorité à Bruxelles, et ce n'est pas le PS.
Et c'est nouveau, ça?
Alors non. Et donc, ça date de l'époque de Elioni Rupo, et c'est lui qui, face à Philippe Moreau, qui, oui, je parle des dinosaures. Hein,
ça leur fera plaisir, en tout cas, Elioni Rupo.
Oui, mais quand même. Et donc, c'est Elioni Rupo qui avait donné ce pouvoir-là à Philippe Moreau, donc le père de Catherine Moreau, de négocier seul, si vous voulez, la majorité, la majorité bruxelloise. Donc, dans les statuts du Parti socialiste, ce n'est pas le président du Parti socialiste, donc Paul Magnette, qui a le pouvoir de tordre le bras de Ahmed Laouej pour lui dire négocier avec la NVA. Et là où je rejoins encore Fabrice, c'est que quand vous dites que Ahmed Laouej a un caractère difficile. Vous savez comment on...
J'ai dit difficile à manœuvrer.
Oui, ok, d'accord. Mais je rencontre de temps en temps des socialistes bruxellois qui appellent Ahmed Laouej, entre guillemets, hein, c'est le sultan de Bruxelles. Oui, parce que...
C'est un homme qui divise ?
Bah oui.
Au sein du PS bruxellois ?
Oui, et moi j'attends, mais malheureusement il y a des gens qui ne pensent absolument pas comme Ahmed Laouej, qui sont tout à fait prêts à aller négocier avec la NVA, mais... Ils sont soumis au bon vouloir de Monsieur Laouej. D'ailleurs, quand il dit que c'est un programme qui ne veut pas négocier avec le parti le plus à droite, ok. Mais il y a aussi la vision constitutionnelle, institutionnelle de la NVA qui le dérange, puisque la NVA nie quasiment Bruxelles dans son programme institutionnel. C'est le cas du CDNV aussi. Rappelez-vous des propos d'un fédéraliste qui disait il faut un fédéralisme à 2+2. Bruxelles étant co-gérée par les deux autres. Communauté. Donc je pense que ce que Ahmed Laouej dit, entre guillemets, hein, le sultan par ses amis bruxellois, ce qu'il veut, c'est être ministre-président. Il a déjà dit non, d'accord, il va sans doute contester cette vision, mais je pense que si on lui promettait ça, les négociations avanceraient plus facilement.
Je vous ai vu deviner du chef Fabrice Goffilet.
Non, parce que je crois que on a aussi entendu, pour ceux qui écoutent un petit peu, Ahmed Laouej dire à plusieurs reprises que David Lester était légitime comme ministre-président, donc il y a un veto sur l'NVA, ça c'est vrai. Le terme sultan, il est quand même très désobligeant et limite raciste, je pense qu'on peut le laisser de côté.
Je répète que ce n'est pas une expression que ce n'est pas moi qui ai dit.
Je suis pas si sûr que vous, Francis, qu'il y ait une grande marge d'appréciation, une grande différence d'appréciation entre ce que dit Paul Magnette et Ahmed Laouej, surtout dans un moment où Paul Magnette est en train aussi de durcir le ton vis-à-vis du mouvement réformateur et d'un certain nombre d'expressions plutôt très droitières. Et ces expressions très droitières, on les retrouve régulièrement à l'NVA, dans le chef de Théo Franken, entre autres. Donc moi, je pense que les deux hommes sont beaucoup plus proches sur le fond qu'on ne le pense.
Il se parle,
je pense que par contre Paul Magnette n'insulte pas l'avenir. Hein, on ne sait jamais si l'Arizona n'allait pas au bout. Peut-être qu'on rappellerait le PS à un moment. Et ça, je pense que Paul Magnette ne peut pas se permettre de mettre un veto contre la NVA, même à Bruxelles, parce qu'il sait qu'on va l'utiliser contre lui plus tard. Donc je pense que c'est ça la question. Mais pour Bruxelles, je pense pas que Paul Magnette encourage les socialistes bruxellois. Et on n'a pas tant que ça, à ma connaissance, qui envisage de réellement négocier avec la NVA. La NVA, ce n'est quand même malgré tout que 2 sièges au Parlement bruxellois. La NVA est contournable, beaucoup plus contournable que le PS.
Fabrice Goffilet, ancien président, et vous l'avez interviewé du Parlement bruxellois, disait que c'était pas impossible.
Oui, Rachid Madran. Impossible. Mais Rachid Madran est un cas un petit peu isolé. Il faut rappeler qu'il avait été candidat à la présidence contre Ahmed Laouej. Et je n'ai pas entendu d'autres Bruxellois importants aller dans la suite de Rachid Madran. Donc aujourd'hui, la puissance de Ahmed Laouej, elle est réelle sur la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Et effectivement, il y a sans doute pas grand monde qui oserait le contester, mais il y a sans doute pas grand monde qui, au fond, le conteste vraiment. Et moi, je vois pas le Parti Socialiste, effectivement, changer radicalement de position dans les prochains mois et continuer à faire vivre cette idée, c'est nous enfermer dans le no man's land actuel où il ne se passe rien.
Quel est le plan B ?
Eh ben, le plan B, c'est d'essayer de trouver une autre majorité ou ça va être de passer au Parlement et d'aller vers une sorte d'affaire courante un petit peu élargie. On va garder le gouvernement actuel, mais on va au coup par coup. Mais on n'a pas d'autre solution, Francis, parce que les choses sont complètement bloquées.
On va en parler dans quelques instants, mais j'aimerais revenir sur l'une des déclarations de Paul Magnette avec Romain Masquelier. Paul Magnette essaie d'être plus subtil concernant ici les responsabilités. Il a déclaré notamment que la NVA ne veut vraiment pas y aller, mais essaie de refiler le zwarte-pique, le veil noir, au Parti Socialiste. Ce n'est pas correct que le MR ne prenne aucune initiative tant qu'il n'y a pas de gouvernement fédéral. Qu'est-ce qu'essaye de faire Paul Magnette et Ahmed Laouaj? Je mets de la responsabilité sur le formateur, ça avant tout le MR, Romain Masquelier qui est responsable de la situation.
C'est ça qu'ils essayent, mais factuellement, aujourd'hui, il y a un parti qui bloque à Bruxelles, c'est le PS. Donc ils essayent de, en effet, de eux donner le sort à quelqu'un d'autre. Mais si on regarde le discours que Ahmed Laouaj a tenu pour ses vœux, on retient deux choses. Mmh. On retient que le PS insulte la NVA. Bon, on commence à comprendre. Hein, les déclarations sont quotidiennes sur les réseaux sociaux. Et on comprend aussi cette voix parlementaire qui est très bizarre parce qu'on a l'impression que depuis les élections, depuis juin, en fait, les négociateurs oublient qui est comme ça ce bâtiment entre le piétonnier et les sablons, la petite rue qui monte, vous connaissez bien, la rue du Lombard, il y a ce Parlement bruxellois, oui. Et qu'en fait, lorsqu'on négocie un accord du gouvernement, en effet, s'il y a des blocages avec la NVA notamment, le Parlement peut être un endroit de déblocage. Il peut, dans un accord du gouvernement, avoir des balles renvoyées au Parlement. Et si le PS, par exemple, craint un blocage institutionnel, enfin un blocage à la table du gouvernement avec la NVA, le gouvernement peut aussi renvoyer au Parlement. Et là, il y a toujours une majorité côté francophone. Et donc, je veux dire, c'est un peu fort de café quand même du PS de maintenant évoquer cette carte parlementaire alors qu'on a l'impression que le Parlement a été totalement mis sous silence et même totalement nié pendant ces négociations.
C'est quand même très interpellant ce que vous venez de dire, Romain Masquelier, c'est qu'on joue encore aux ouartepiques, hein, savoir qui est responsable encore, oui. Alors que les négociations n'ont véritablement pas encore débuté. Je rappelle que, eh bien, on y voyait en tout cas clairement les résultats après le 9 juin dernier. Ça va faire plus de 6 mois, ça fait plus de 6 mois maintenant, et on joue toujours à qui est responsable. Francis Van Woonstein, à partir de quand les choses vont véritablement s'accélérer ?
Mais donc il y a deux choses. Hein. D'une part, je pense que poser des extrêmes à l'égard de partis démocratiques, et la NVA est un parti démocratique, donc ça n'est pas sain dans une démocratie. Que l'on pose des extrêmes, des exclusives à l'égard des partis extrémistes, je peux le comprendre. Le Belang, et certains le font à l'égard du PTB. Ce n'est pas ce que je dis, mais. Donc voilà, comment dire, négocier avec des exclusives, ça bloque à un moment donné. La deuxième chose, c'est la démonstration, c'est par l'absurde que Fabrice a faite. Admettons que l'Arizona n'aboutisse pas et que finalement le PS revienne dans le jeu ainsi que la NVA au niveau fédéral. Alors ça voudrait dire qu'à Bruxelles, la NVA devient acceptable. Donc vous voyez, par l'absurde, on démontrerait que finalement, c'était quand même bien cette solution-là qu'il fallait appliquer. On me dit aussi que la majorité, parce qu'on oublie de parler d'une commune bruxelloise qui n'a toujours pas de majorité, qui est Schaerbeek. Vous vous souvenez, hein?
Bien sûr, c'est la dernière.
Oui, mais donc, et vous voyez, tout ça est mélangé dans la tête des socialistes qui veulent prendre des revanches à gauche et à droite parce qu'ils se sont fait exclure de certaines majorités. Et donc, je pense que le jeu des socialistes bruxellois me paraît totalement artificiel. Et je pense que, voilà, si chacun se regarde un peu en chien de faïence, effectivement, on ne va pas avancer. Fabrice dit, ok. Alors je ne dis pas que le MR n'a pas, il a forcément une responsabilité puisque David Lester est le formateur et qu'il n'arrive pas à trouver une majorité, mais So what?
D'abord, rappeler, peut-être comme il y a eu plusieurs vétos, et notamment un veto vis-à-vis de Tim Haidar, par exemple, là, qui, avec trois députés, pourrait débloquer la situation dans le collège néerlandophone. Rappeler aussi que l'accord de majorité des néerlandophones, il est très conditionnel, parce qu'il dépend de la création d'un nouveau poste de secrétaire d'État ou de commissaire au gouvernement, et que pour ça, il faut quand même l'aval des francophones. Petite parenthèse. Donc je pense que tout le monde a une responsabilité, et tout le monde, en réalité, depuis le début de cette négociation, a mis des vétos. Donc tous les partis, quasiment sans exception, ont une responsabilité dans le blocage actuel. Moi, je crois que au point où on en est, effectivement, on est dans une situation extrêmement bloquée. Rappelez aussi qu'il y a des aspects psychologiques qui jouent, et que sans doute que le Parti Socialiste a très mal vécu cette séquence de constitution d'une majorité néerlandophone, où il y a eu le sentiment qu'on on lui a fait un enfant dans le dos, et que probablement que les libéraux francophones n'y étaient pas pour rien, que ça permettait de faire glisser la majorité bruxelloise beaucoup plus à droite en ayant l'Open VLD et la NVA à bord avec le mouvement réformateur. Donc il y a plein de choses de ressentiment, de difficultés psychologiques qui sont maintenant très présentes. Et je crains que si on veuille s'en sortir, on doit passer à une autre phase, y compris peut-être avec une phase où on n'a pas de palais à Bruxelles, c'est une des difficultés, mais une phase où il faut faire appel à une personnalité extérieure pour essayer. Ça va prendre du temps, c'est pour ça que de se dire qu'il va falloir de toute façon passer par la case Parlement, parce que les 12e provisoires, ils ne sont valables que jusqu'en mars, qu'on est déjà à la mi-janvier, et que si on n'a pas un accord de gouvernement dans le courant du mois de février, on va devoir faire autre chose. C'est un constat cruel, mais c'est un constat qui me semble factuellement réaliste.
Alors, Fabrice Grosfillet, merci d'être passé par le club. Vous nous laissez malheureusement
Je dois partir.
Oui, vous avez.
Mais je sais que mes excellents confrères vont être très très bons.
Vous m'avez dit que vous avez un scoop à préparer et je le comprends très bien. En tout cas, merci d'avoir participé
jusqu'ici
au club. Restez avec nous puisque le club continue juste après la pause. Nous débattrons du gel de l'indexation pour les allocations sociales. Il paraît aussi que ça se frite pas mal entre partenaires potentiels de l'Arizona. On verra si c'est vrai juste après la pause. À tout de suite.
Bonsoir le club, en collaboration avec LN24.
Time is going down, time is running out, no one else around me. Steady losing life, steady losing my mind. Shadows and gravity. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. What I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I keep sipping in the bad dreams. But there ain't no you and I. Knows how when I find I love you.
votre enfant entre bientôt en première secondaire? Pensez à l'école Jules Verne, pédagogie active avec possibilité d'immersion en néerlandais dans une ambiance innovante, un cadre scolaire verdoyant et d'accès facile en transport en commun. Info sur le web écolejulesverne.brussels.
Portes ouvertes ce samedi 25 janvier.
LN Radio vous guide sur la route. L'info routière sur LN Radio, du lundi au vendredi de 7 à 9 et de 17 à 19h. En ce moment sur LN Radio, vous découvrez Nubo featuring Mounia, Slow Down. Hold on my hand in heaven. Down par Nubo featuring Mounia. Une découverte belge, LN Radio.
LN Radio.
Bonsoir le club, Maxime Binet.
Très heureux de vous retrouver sur LN Radio et sur LN 24. Bonsoir le club, deuxième partie. C'est votre émission qui décrive l'actualité politique et ses coulisses. Nous sommes toujours non pas avec trois, mais avec deux chroniqueurs de l'actu, à savoir Francis Van Woonstein, toujours présent en plateau. Merci d'être là, Francis. Et avec Romain Masculier. Bienvenue et remercie encore Romain d'être présent dans Bonsoir le club. Cette mesure fait grincer des dents le jet de l'indexation des allocations sociales pour les petites retraites compensées par un autre revenu. Ou pour les chômeurs de longue durée. Cette mesure est envisagée par les négociateurs de l'Arizona. Encore faut-il que cet Arizona voie le jour. C'est le sujet de notre débat. Alors, on va vraiment parler de cette mesure qui se dégage de la libre Belgique, c'est-à-dire le gel de l'indexation des petites retraites et aussi des allocations de chômage de longue durée. Pourquoi viser cette catégorie de personnes de l'Arizona? Que visent les négociateurs de l'Arizona avec cette mesure?
Bon, on a pu le voir pendant la campagne, ça a tout le temps été répété qu'il fallait marquer une plus grande différence entre les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Donc là, c'est clairement des mesures qui s'inscrivent dans cette dynamique et donc dans la libre de ce mardi, il y a cette information qui a fouetté des notes qui dit que donc les négociateurs aimeraient ne pas indexer le revenu d'intégration sociale et les allocations de chômage de longue durée. Ça permet de faire des économies et ça permet d'augmenter ces différences entre travail non travail, une mesure qui bien sûr est un épouvantail pour le PS et sans doute aussi en partie pour Voreuil qui devra avoir pour accepter ça des compensations sur d'autres domaines.
Dans quelques instants, on va parler évidemment du positionnement de Voreuil puisque c'est aussi la clé pour comprendre pourquoi ces négociations, eh bien, pour l'instant, patinent. Selon nos dernières informations, ce que souligne Romain Masculier, c'est aussi, eh bien, qu'avec l'abandon des allocations de chômage, eh bien, il y avait certaines catégories qui étaient exemptées de cet abandon et donc la volonté était de ne pas indexer ces différentes catégories. Alors, Francis Van Woonstein, il faut rappeler que cette mesure, elle existait déjà. Elle existait déjà il y a un peu plus de 10 ans, pratiquement, avec le gouvernement de Charles Michel, mais Charles Michel n'avait jamais appliqué cette mesure, si je me rappelle bien.
Il y a eu un saut d'index, mais donc qui a frappé tout le monde, donc a frappé les revenus de remplacement, mais aussi les salariés. Donc et c'est justement pour rattraper, si vous voulez, ce blocage des allocations qui a eu lieu à l'époque du gouvernement de Charles Michel, que il y a un rattrapage qui a été effectué pendant le gouvernement, qui est toujours là maintenant, le gouvernement de Croo, donc d'Alexander de Croo. Mais donc il faut préciser que il y a eu, ces allocations ont suivi l'indexation d'une manière assez. L'indexation pendant ces années-là était de 16 à 18% et la plupart des allocations tenant compte également de la crise du Covid, de la guerre en Ukraine, ont connu des augmentations assez importantes puisque les chiffres sont globalement de plus 34, plus 38% pour la pension minimum pour les personnes isolées, pour les personnes ayant charge de famille. pendant le gouvernement de Croo. Et donc c'est là-dessus, si vous voulez, que les négociateurs actuels se basent pour dire il faut, on ne peut pas continuer, si vous voulez, à effectuer ce rattrapage parce que ça va coûter effectivement trop cher, alors que la Belgique cherche à réduire son déficit. Mais donc justement, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais donc pendant effectivement le gouvernement Michel, il y a eu un blocage, enfin un saut d'index. Puis il y a eu un rattrapage pendant le gouvernement de Croo qui a été accentué, presque doublé par rapport, si vous voulez, au taux d'inflation. C'est ce qui explique les augmentations de 34% et 30%.
C'est aussi pour soutenir les familles et les indépendants par rapport au Covid.
Pas, de nouveau, je ne dis pas que ces augmentations, donc, qui sont importantes, ne devaient pas avoir lieu, parce qu'il s'agissait de montants faibles. Hein. On est passé de 1295 à 1784 euros pour l'un, de 1154 à 1549 euros. Donc, je veux dire, c'est un revenu très très bas. Donc, ce rattrapage devait avoir lieu, mais voilà, les négociateurs de l'Arizona estiment que il faut que ces augmentations successives peuvent justifier un gel futur.
En fait, ce qui est en train de décider peut-être par l'Arizona, et on verra notamment Romain Masquelier pour l'instant l'Arizona pourrait voir le jour. On nous dit que les prochains jours seront capitales d'ici la fin de semaine, peut-être le week-end prochain. Romain Masquelier, c'est une sorte de saut d'index, mais pour certaines catégories de personnes, si j'ai bien compris. Arrêtez-moi si je me trompe.
C'est le mécanisme, oui, c'est le mécanisme qui dit, ben voilà, on gèle l'indexation pour une partie, donc ici pour les allocations.
Oui.
Mais je pense aussi que il y a aussi c'est cette volonté de freiner l'indexation.
Et ça va pas plaire aux organisations syndicales. On nous dit que par rapport à cette manifestation du 13 janvier dernier, avec une grève dans les services publics notamment, Voreut se retrouve quelque peu coincé, et c'est durci même, Voreut, les socialistes flamands, dans ces négociations. Alors, Romain Masquelier, dites-nous un petit peu le off que vous avez au niveau du fédéral. Ça coince vraiment avec vos oreilles pour l'instant?
Ça continue de coincer. J'ai pas énormément d'informations, mais d'après ce que j'entends, c'est que en effet, ça avance très 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 lentement. Et donc cette deadline qui avait été donnée, une première vraie deadline depuis juin, de la fin janvier, cette deadline finalement, ce sera peut-être la Saint-Valentin. Décidément.
Le 14 février.
Si certains croient, d'autres n'y croient pas. En tout cas, cette volonté quand même d'aboutir dans un futur proche, donc pas dans 5 mois, d'ici un mois, mais voilà, fin janvier, personnellement, j'ai des doutes.
Et puis il y a aussi la fatigue, la fatigue des négociateurs qui négocient depuis de longs mois, et parfois même un petit découragement. Francis Van de Woonstein, quelles sont vos informations?
Alors, tous les présidents de parti qui négocient ont dit on n'ira pas au-delà du 31 janvier. Donc, effectivement, une deadline est faite pour être dépassée, mais ils se sont quasiment tous engagés.
Enfermés aussi.
Ils ont tous dit, voilà, vraiment, on n'ira pas au-delà. Et c'est la raison pour laquelle la réception du Nouvel An du Palais Royal a été organisée cette année, non pas le 31 janvier, comme ça se fait habituellement, mais le 4 février, quelques jours plus tard. Et là, vous savez comment ça se présente, donc le Premier ministre et le palais
peut-être
espère que ce soit le nouveau présente ses vœux au ce qu'on appelle les corps constitués et le roi également. Mais donc je pense que s'il n'y a pas de gouvernement le 31 janvier, je m'avance peut-être, gouvernement fédéral, alors là je pense que on tombe dans un autre monde, et je pense que les négociateurs de l'Arizona laisseront tomber, parce que tout est là, on le répète depuis des mois.
D'accord, mais c'est le nœud gordien, Francis Van Woonstein, le nœud gordien, c'est la fiscalité, ce sont les épaules les plus larges, et là encore Voreuil bloque.
Oui, mais si je peux me permettre, François Mathieu a fait effectivement un excellent article qui explique le gel des allocations, mais quand les informations commencent à filtrer, c'est toujours mauvais signe. Ça veut dire qu'effectivement il y a de l'eau dans le gaz, ça veut dire que certains, voilà, la divulgation de ces chiffres va faire bondir effectivement les syndicats, voire vont mettre le Voreut, peut-être aussi le CDNV, et les engager en difficulté. Donc, moi je trouve que la discrétion des négociations est toujours un gage de réussite. Donc, tant que nous avons des fuites, tant mieux. Enfin, pour nous.
Oui,
mais ça veut donc dire que ça n'avance pas beaucoup.
Oui.
Mais il y a des difficultés dans tous les dossiers, et le communautaire va arriver. Donc, à un moment donné, il faudra dire, voilà, tout est sur la table, chacun prend son petit trophée, et chacun laisse passer les horreurs qu'il n'a pas envie de laisser.
La messe sera dite.
Approuvée.
Quand?
Le 31 janvier.
Un peu avant, il y aura quand même des rapports de force entre les différents partis.
Mais je veux dire que la messe sera dite. Oui, elle ne pourra pas être dite, je pense, à la Saint-Valentin.
Eh bien, merci Francis Van Doonsteen d'avoir participé à Bonsoir le Club. Et merci aussi à Romain Masculier de votre participation sur LN Radio. Vous allez retrouver le meilleur de la musique comme chaque soir. Merci de nous suivre.
Bonsoir le club, en collaboration avec LN24.
Hold on little girl, show me what he said to you. Stand up little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate will twist of both of you. So come on baby, come on over, let me be the one to show you.
I'm the one who wants to. With you, deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of
waited on a line
just to be the next to be with you.
Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all in doubt. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hurt. Can be together, baby. You can make my life worthwhile. I can make you start to
sur cette terre, si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts, je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra, un livre ou un opéra. Mais t'es tout pour moi. Thank you. collier de l'univers. T'es infini mon petit, infini mon petit. Mais un amour pareil mon chéri, ça s'observe depuis la stratosphère. C'est une fois par millénaire, c'est une fois par millénaire.
Can't fix me.
Sur LN Radio, vous découvrez Alberka, Wall Again.
Wall Again par Alberka, une découverte belge LN Radio.